Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
Bienvenue dans Soft Power, magazine de France Culture consacré aux industries créatives et au numérique en direct jusqu'à 20h30. L'un des thèmes centraux et récurrents de cette émission Soft Power est celui de la transformation des médias et des industries culturelles à l'âge numérique. Mais cette transition digitale n'affecte pas seulement la culture ou la presse, elle concerne tous les secteurs de notre économie et de notre vie quotidienne. Voilà pourquoi on s'est intéressé dans Soft Power à la mutation des transports, des hôtels ou encore des banques du fait du numérique. Voilà encore pourquoi on a parlé de ce que le numérique faisait au sommeil ou ce qu'il faisait à l'amour. Ce sera le thème de Soft Power dimanche prochain. Ce soir, nous nous intéressons à un autre secteur transformé par le numérique, celui des assurances. Et nous ne sommes encore qu'au début de cette grande mutation. Mieux vous connaître pour mieux vous assurer, tel est le sujet de Soft Power ce soir, où nous allons voir comment les assurances s'adaptent au big data, comment elles évoluent par rapport à l'intelligence artificielle, comment elles vont assurer les voitures autonomes ou l'économie du partage, que ce soit Airbnb par exemple ou Blablacar. Pour décrypter ces sujets ce soir et le numérique confronté aux assurances ou comment les assurances évoluent avec le numérique, je reçois trois invités. Jacques Richer, d'abord le PDG d'Allianz France, un géant de l'assurance, le premier groupe d'assurance en Europe et l'un des trois plus importants en France. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Allianz, comment on définirait cette société ?
Comme vous l'avez dit, c'est un acteur complet de l'assurance, c'est-à-dire aussi bien, je dirais, souvent je dis du vélo au satellite, et donc des particuliers aux entreprises, des petites entreprises, des grandes entreprises. Toutes les questions que vous posez sur l'assurance, en général on est présent, avec une autre particulière, peut-être un point important pour Allianz, c'est qu'on est aussi très présent sur la gestion d'actifs.
À vos côtés, face à vous, Jean-Charles Samuelian, vous êtes, bonsoir, le fondateur de Allan.
Bonsoir.
Allan, c'est une start-up spécialisée dans l'assurance complémentaire santé en ligne, un acteur entre guillemets tout petit à côté du géant Allianz, mais vous venez malgré tout de lever 23 millions d'euros tout récemment pour votre start-up. Allan, bravo.
Merci.
Comment on fait pour lever 23 millions d'euros comme ça ?
Je pense que c'est une combinaison de beaucoup d'ambition et d'être le premier nouvel assureur en France depuis 1986, premier nouvel assureur indépendant en France depuis 1986, et une vision à révolutionner la santé, et on pense que l'assurance est le meilleur moyen pour faire ça. Du coup, c'était la combinaison de tout ça qui a fait qu'on a levé autant si rapidement.
Enfin, troisième invité, d'ailleurs en troisième partie d'émission, nous serons avec François Ewald, sociologue, auteur de nombreux ouvrages sur le risque et l'un des bons connaisseurs des théories de l'assurance. Il fut aussi le conseiller de la Fédération française des assurances. Toujours au sommaire de cette émission, dans un instant, l'actualité du numérique, des médias et des industries créatives. Nous parlons des nouveaux patrons dans l'audiovisuel et les médias français avec vous, Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, avec deux nominations importantes cette semaine.
Oui Frédéric, alors la première à l'AFP, à l'agence France Presse, où Fabrice Friss va succéder à Emmanuel Hogg, qui avait déjà réalisé deux mandats, qui postulait pour un troisième mandat, et qui a très étrangement abandonné sa candidature pour laisser en lice Fabrice Friss. Donc c'est quelqu'un qui a fait essentiellement sa carrière dans le privé, puisqu'il venait de Publicis Consultant. Et puis une deuxième grosse nomination, donc à la tête de Radio France. Donc cette fois c'est Sybille Veil, donc c'est une personne qui est bien connue de la Maison Ronde, puisqu'elle est déjà en poste depuis maintenant 2015. Elle avait été nommée par Monsieur Gallet, donc numéro 2 de Radio France, et en charge des finances. Donc c'était elle qui a été nommée à la tête de la Maison Ronde pour un nouveau mandat.
En seconde partie d'émission, l'invité Innovation à 20h avec vous, Zoé Sfez. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Mon invité sera Joséphine Bouchet, elle est cofondatrice de Ticket for Change, une entreprise slash une association slash une école qui s'attache, en tout cas dit vouloir s'attacher, à faire fleurir les talents inutilisés des travailleurs français, qu'ils soient entrepreneurs ou pas, et qui sera l'une des intervenantes de la journée de la femme digitale. C'est le 17 avril et ça se passe à Radio France, et on va évoquer évidemment avec elle à la fois Ticket for Change, mais aussi la place des femmes dans l'entreprise et notamment dans le secteur du numérique, parce qu'on a fait le constat malheureux qu'elles sont assez peu nombreuses. La preuve en est dans cette case innovation. Je ne crois pas qu'on en ait reçu plus de 5 depuis le début de cette année, malheureusement.
Avec vous, à 20h, Zoé Schlasfez. 20h10, le numérique et politique, le débat de ce soir sera consacré à Facebook entre le scandale Cambridge Analytica et l'audition marathon de Mark Zuckerberg cette semaine devant le Congrès américain. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Cette émission est réalisée par Sonia Leglen avec en régie Audrey Guélil. Elle a été préparée par David Lavaux avec pour les réseaux sociaux Pierre Ledamani. Car vous pouvez également suivre cette émission sur les réseaux sociaux, sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist de Soft Power sur Spotify ainsi que sur Instagram, Medium, Facebook, LinkedIn, en podcast et sur France Culture en direct jusqu'à 20h30. Pour commencer l'actualité, pour commencer comme chaque semaine au début de cette émission avec nos chroniqueurs Emmanuel Paquet, journaliste à L'Express et Zoé Sfès de France Culture. Depuis jeudi après-midi, Radio France a donc un nouveau PDG qui est Emmanuel Paquet, une femme, Sybille Veil, vous l'avez dit, elle a 40 ans et était déjà bien connue en interne ici même à la maison de la radio.
Oui, alors il faut noter également que c'est une énarque, qu'elle a fait la même, elle était dans la même promotion qu'Emmanuel Macron, ce qui a été souvent souligné dans la presse après cette nomination.
Son conjoint aussi, je crois, c'est ça ?
Exactement.
Son conjoint aussi.
Oui, exactement. Et aujourd'hui, elle prend les rênes donc, de la Maison Ronde, dont les pertes ont été réduites sous la mandature de Mathieu Gallet et donc sous sa direction également, en tant que direction financière. Directrice financière. En face d'elle, elle aura quand même quelques grands challenges, défis à relever, notamment retravailler sur les deux orchestres de Radio France qui restent aujourd'hui en suspens, puisque pour l'instant, les deux orchestres continuent leur vie, mais on ne sait pas si ça durera dans les années qui viennent. L'autre grand chantier, c'est pour le coup le chantier de la Maison Ronde, dont les dépassements ne cessent de s'accumuler. Le budget est dépassé. Et puis la mutualisation avec France Télévisions, qui va être un des grands chantiers des années à venir, puisque Emmanuel Macron et la ministre de la Culture veulent mutualiser les moyens de Radio France avec ceux de France Télévisions pour faire des économies. Dans les deux maisons qui aujourd'hui sont deux maisons qui font des pertes et donc pour essayer de retrouver au moins l'équilibre ou au moins tirer les premiers bénéfices de ces deux grandes sociétés.
Alors avec du coup une nomination qui est pour une durée définie mais en même temps peut-être pour une part indéterminée du fait de cette loi qui pourrait, si le gouvernement poursuit sa réflexion avec l'idée d'une nomination d'un PDG commun à l'ensemble des structures de l'audiovisuel public pourrait amener à des changements de présidence, y compris pour ceux qui sont nommés en poste déjà.
Oui, exactement, puisque l'idée c'était de définir éventuellement une nouvelle gouvernance de l'audiovisuel public, donc avec une présidence ou un président qui coordonne notamment France Télévisions et Radio France pour mutualiser les moyens et les ressources des différentes entités. Pour l'instant, on ne sait pas exactement quelle forme va prendre cette nouvelle gouvernance et quelle latitude va être donnée notamment à la PDG de Radio France et également celle de France Télévisions. Et si d'aventure cette présidence devait voir le jour, est-ce qu'il faudrait remettre ces candidatures à plat? Donc il y a encore beaucoup d'interrogations sur la future gouvernance de l'audiovisuel public français on devrait avoir quand même des précisions dans les mois qui viennent assez rapidement puisque aujourd'hui il y a toujours une réflexion en cours au niveau du ministère de la Culture.
Seconde nomination importante cette semaine, celle de Fabrice Frise à l'AFP, en remplacement inattendu pour le coup d'Emmanuel Haug, qui a jeté l'éponge. L'agence France Presse a donc un nouveau président, un nouveau PDG, ce qui était tout à fait inattendu.
Oui, puisqu'il y avait deux candidats en lice, et après le retrait d'Emmanuel Haug, Fabrice Frise était le dernier candidat à postuler à la direction de l'AFP. Il faut savoir que l'AFP continue de faire des pertes, alors que le mandat d'Emmanuel Haug était justement de les résorber. Quasiment 5 millions d'euros en 2016, 5 millions d'euros de pertes en 2017. Et donc c'est là-dessus que, sur ce bilan-là, en tout cas, qu'Emmanuel Haug aurait été sanctionné. Et l'État n'aurait pas voulu lui redonner un troisième mandat pour tenter de rééquilibrer les comptes de la société. Donc Fabrice Friis, lui, a déjà une idée assez précise de ce qu'il souhaite faire. Il a même commencé à évoquer une ouverture possible du capital de l'AFP, ce qui a énervé les syndicats, hein, puisque ouvrir le capital de l'AFP, faire rentrer des capitaux privés, ça pourrait complexifier l'indépendance de la société vis-à-vis de pouvoirs externes, de pouvoirs de sociétés tierces ou d'entreprises tierces. Donc aujourd'hui, les syndicats sont extrêmement vigilants. Fabrice Friis a dit que tout ça n'arriverait pas dans un premier temps, mais il n'a rien dit ce qui arriverait dans un deuxième temps. Donc on va attendre de voir ce qui va se passer au niveau de l'AFP avec une nomination surprise de dernière minute.
Zoé Sfez, sur cette question.
Et ben justement, on a essayé évidemment de contacter Emmanuel Hogg parce qu'effectivement, cette espèce de retrait, alors que oui, vous le rappelez, il demandait dans le cadre de son troisième mandat une aide exceptionnelle de l'État de 60 millions d'euros. L'État qui n'est pas donc une tutelle hein, comme chez Radio France, mais qui est un partenaire privilégié sur un statut particulier. J'ai contacté en revanche Benoît Fauché de la SNJ, le syndicat national du journalisme de l'AFP, qui avait dans un communiqué jeudi, le jour de la nomination de Fabrice Friis, demandé à ce que dans un climat aussi peu serein, on réorganise un nouveau processus de nomination avec ce retrait sur Friis. Je lui ai demandé comment justement il avait lu ce retrait d'Emmanuel Hogg. Emmanuel Hogg qui entretenait avec les salariés de l'AFP des rapports complexes, hein, parce qu'il avait demandé beaucoup de sacrifices pour engager cette réforme de l'AFP, beaucoup de jours de RTT qui avaient sauté, des statuts de correspondants qui sont avec des contrats locaux et plus français. Voici ce que m'expliquait Benoît Fauché.
Il y a beaucoup de mystères autour de ça, hein, il faut quand même le dire. Hein. Si on en croit Emmanuel Hogg, puisqu'il a adressé une lettre aux salariés. Il avait demandé, mais ça il le demandait depuis plusieurs mois, une aide supplémentaire de l'État de 60 millions d'euros pour accompagner justement son projet de développement, toujours sur la vidéo, de développement d'un certain nombre de projets pour mieux servir en fait les produits AFP auprès de la clientèle. Donc voilà, il avait une demande assez forte auprès de l'État, partenaire principal de l'AFP. Et il se peut, c'est en tout cas ce qu'on croit lire en filigrane, que l'État n'a pas vraiment répondu aussi clairement qu'il l'attendait, c'est-à-dire que l'État ne lui a pas dit un oui ferme à ces 60 millions d'euros qu'il demandait. Donc, il retire sa candidature et ne reste plus effectivement que Fabrice Friis, le challenger, si on peut dire, qui effectivement était ressorti du comité de sélection, lui aussi. Alors c'est pour ça que le personnel, voyant cela, a dit « Attendez, il n'y a plus qu'un candidat, donc en fait, le conseil d'administration va voter sur un seul nom ». Voilà, le personnel a fait quand même l'analyse que c'était un peu court de confier la troisième agence de presse mondiale à un homme qu'on ne connaît pas très bien quand même dans le milieu de l'information générale, encore moins dans le milieu des agences de presse, pour 5 ans. Et est-ce que, au fond, on ne peut pas quand même refaire un processus électoral où au moins il y aurait un choix entre Fabrice Friis et un deuxième candidat ou candidate. Hélas, le conseil d'administration n'a pas suivi cet appel des salariés et a décidé, il faut bien le dire, de passer en force en votant à l'issue du troisième tour pour Fabrice Friis.
Donc effectivement, votre demande de jeudi n'a pas été entendue. Fabrice Friis, est-ce qu'il a un projet? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que depuis, il s'est adressé à vous? Et quelles sont, vous, vos principales craintes, s'il y en a et s'il en subsiste encore?
Alors, il a un projet que les salariés ont réussi à se procurer, qui, au fond, d'un certain côté, reprend les efforts déjà accomplis par l'agence et essaye de les amplifier. Il n'est pas révolutionnaire sur beaucoup de points. Hein. Il y a toujours la volonté de développer du pôle image, la vidéo notamment. Après, il est vrai que le personnel a des inquiétudes sur les velléités de Monsieur Friis par rapport à une réforme du statut de l'AFP, qu'on appelle le statut de la liberté. Hein. C'est une formule, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'actuellement, l'AFP a un statut qui garantit son indépendance rédactionnelle, économique et financière, et on craint que M. Friis ait un projet dans un premier temps de capitalisation de l'AFP en créant une société à capitaux qui pourrait être publique dans un premier temps, mais on sait tous qu'une société à capitaux, ils sont publics au départ et assez vite, ils peuvent être privés.
Est-ce que vous avez eu d'autres informations et est-ce que sont attendus ou pas des échanges avec l'État qui est effectivement votre partenaire et l'un de vos principaux financeurs?
Non, c'est vrai qu'on a eu assez peu d'échanges, c'est vrai, et le personnel est vraiment en attente justement d'un, j'ai envie de dire presque de marque d'amour de l'État envers l'AFP. C'est vrai que là, on vient d'assister en 48 heures à une espèce de jeux de dupes. Et c'est vrai qu'on aimerait que l'État réaffirme quand même ce qu'il attend de l'AFP. Quel est le rôle de l'AFP? Quel est le rôle d'une grande agence de presse francophone en 2018? Est-ce que l'État a encore une ambition pour cette entreprise de presse? Et quelle est cette ambition? Au fond, avant de répondre à la question de quelle aide financière peut accorder l'État, sous quelle forme, avec quel statut, il faudrait que l'État réaffirme un peu son attachement à cette maison. Je rappelle quand même qu'elle est née à la Libération, que son statut dépend d'une loi donc votée par la représentation nationale, donc un geste politique fort. L'État peut quand même redire qu'il attend de l'AFP et quelle est son ambition au niveau mondial pour l'AFP.
Voilà, l'AFP qui, je le rappelle, est la troisième agence de presse au monde, la première francophone. Et donc effectivement, avec cette question qui se pose, si effectivement il y avait une volonté de capitaliser l'AFP, il faudrait en passer par la loi. Il faut quand même le rappeler.
France Culture, il est 19h16. Dans un instant, nous parlons des assurances dans Soft Power, un secteur en forte mutation du fait du numérique. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur le film Ready Player One. Ce véritable ovni signé Steven Spielberg est actuellement en salle, numéro 2 box-office France. Il a été vu par 1,4 million de Français, déjà engrangé 100 millions de dollars aux États-Unis, ce qui est plutôt un bon score entre Black Panther et Avengers Infinity War qui sortira à la fin de ce mois. Alors si vous voulez comprendre vos enfants ou vos petits-enfants, allez voir Ready Player One et vous ne comprendrez probablement rien. Le film est ultra codé, mêlant les genres et les niveaux de lecture, remake de remake, citant des centaines d'œuvres pop, ultra référencées donc, agrégation de toutes les pop cultures, qu'il s'agisse de l'histoire du cinéma, de la musique pop, ainsi que des jeux vidéo. Le tout sur fond de réalité virtuelle, qui est l'idée forte du roman de Ernest Cline, dont le film est l'adaptation. Le génie de Spielberg, c'est de montrer que l'entertainment est aussi une esthétique et que la culture de divertissement a ses codes, ses grilles de lecture, son expérimentation et sa créativité. Alors vous allez me dire, faire livrer des pizzas par drone, bon. Le son est impressionnant, notamment la bande originale. Selon le New York Times, Spielberg montre que la fluidité des identités online reste un territoire largement inexploré. Quant aux critiques du New Yorker, il conclut « J'ai vu le film en IMAX et une semaine après, j'étais toujours en train d'attendre le retour à la normale de mon nerf optique. » Entre avatars digitaux, private joke et réalité virtuelle, le téléspectateur de plus de 35 ans se perd, il est un peu paumé, mais les millennials, les jeunes, adorent. Heureusement, on capte un hommage sublime à The Shining de Stanley Kubrick ou une référence bien appuyée à Earth, Wind & Fire ou à The Temptation que l'on écoute justement. Et le spectateur se dit, après avoir vu ce film fou, très fou, et dont il n'a pas tout compris, que si Georges-Louis Borges était cinéaste et qu'il avait 20 ans aujourd'hui, son œuvre ressemblerait peut-être à Ready Player One ou pas. France Culture, il est 19h20.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Dans Soft Power, ce soir, nous parlons des assurances. Je reçois Jacques Richer, le PDG d'Alliance France, ainsi que Jean-Charles Samuelian, qui est le fondateur de la start-up Allon. Et tout à l'heure, un peu plus tard dans cette émission, nous rejoindra par téléphone le sociologue, philosophe François Ewald. Alors la révolution numérique atteint la culture et les médias, je l'ai dit, et nous en parlons d'ailleurs constamment dans cette émission, mais la transformation digitale bouleverse également d'innombrables secteurs comme l'hôtellerie, les transports, les banques, les taxis ou encore les assurances. Et c'est le sujet de Soft Power ce soir. Des économistes comme Daniel Cohen, par exemple, dans son livre Le Monde éclos et le désir infini, un philosophe comme Bernard Stiegler, dans son livre La société automatique, ou encore un entrepreneur comme Pierre Bélanger, dans son livre Souveraineté numérique, sans parler de l'ouvrage plus ancien de l'économiste Jérémy Rifkin sur la fin du travail, tire la sonnette d'alarme. Pour eux, le numérique est en train de détruire les emplois de la classe moyenne après avoir détruit ceux des classes populaires. Daniel Cohen imagine même une croissance sans emploi du fait du numérique. Selon une étude qui fait autorité, 50% des emplois sont menacés de numérisation, affirmait Daniel Cohen dans une interview, pronostiquant que les salariés les plus affectés seront ceux dont les emplois sont dans le secteur des services, les banques et les assurances, je le cite. Classe moyenne en péril. On peut peut-être commencer cette émission par cette question de la mutation du secteur de l'assurance. 50% des emplois y seraient-ils menacés de numérisation ? Vous-même, Jacques Richier, vous êtes le PDG d'Alliance France. Sur 9000 salariés en France et 140 000 salariés dans le monde, ça fait beaucoup de départs.
Alors c'est intéressant parce que dans le même temps, depuis que je suis tout petit, si je puis dire, j'entends parler de l'économie de la connaissance, moi. Et on nous dit que la prochaine révolution, c'est celle de l'économie de la connaissance. Et donc, on arrive à un moment où, avec la data, puisque c'est aussi derrière le digital en soi, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet majeur, c'est tout ce qui est véhiculé derrière le mot digital et la multiplicité des technologies qui sont derrière, et on parle beaucoup de digital, et voulant parler peut-être de véhicules autonomes, de data, d'intelligence artificielle, etc. Et je pense que c'est à la fois une préoccupation qu'on doit avoir, et c'est intéressant d'ailleurs, je fais une parenthèse mais quand vous avez le rapport Nota-Sénard au même moment, c'est intéressant de se poser aussi la question de la raison d'être des entreprises et comment elles se projettent.
Donc destruction, mais aussi création d'emplois, au fond, mutation formidable.
Mais moi, je suis... ça fait malheureusement très longtemps que je suis dans ce secteur. C'était un secteur où le niveau de qualification moyen était bac. Aujourd'hui, il est bac plus 3, 5. Donc on voit, et ça c'est sur une trentaine d'années, ça c'est une mutation que l'on a connue, que connaissent la plupart des entreprises, en particulier dans les services. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les profils des recrutements qui sont les nôtres, ce sont des profils qui sont très tournés vers le monde dans lequel on vit. Au fond, nous on est une entreprise qui doit s'adapter au monde et être le reflet du monde tel qu'il est ou tel qu'il devient. Et donc on recrute des collaborateurs qui sont sur ce que vous avez évoqué, le digital, l'expérience client, comment on retravaille les process finalement entre le client et nous, comment on prend en compte l'économie de la connaissance, la data, comment demain on fait des offres. Vous avez parlé de l'économie collaborative et donc comment on tire parti aussi de ces besoins nouveaux qui apparaissent. Et ça fait effectivement, mais on n'est pas dans notre secteur, mais peut-être que avec Alan on en parlera, on n'est pas disrupté au sens où les gens tous les jours vous disent que vous êtes disrupté. Nous, moi je pense qu'on est en transformation. Et cette transformation, elle va avoir lieu et il faut s'en occuper, elle va avoir lieu sur plusieurs années.
Alors, transformation numérique, transformation des assurances, du secteur de l'assurance, du fait du numérique, c'est le sujet de cette émission. On va évoquer plusieurs questions, les mutations du secteur, notamment le besoin de personnalisation, les évolutions du type d'assurance, avant beaucoup sur la propriété, davantage sur l'usage. On évoquera les comparateurs, les données, l'assurance complémentaire santé, le travail des start-up, les nouveaux risques à assurer et la confiance du consommateur dans l'ensemble de ces secteurs. Un mot pour commencer sur Alliance France. On l'a dit, c'est un groupe important au niveau européen et mondial. Votre actionnaire est allemand. Vous avez combien d'assurés en France et de salariés, en gros ?
Donc, vous avez cité 9000 collaborateurs, mais on a aussi 2000 agents généraux qui eux-mêmes emploient à peu près 8000 personnes. Donc, économiquement, on pèse 18000 personnes, si vous voulez. Vous avez effectivement Allianz et j'allais dire même Bavarois, mais c'est une société qui, il y a une dizaine d'années, a choisi de prendre le statut de société européenne. Et je voudrais juste préciser ça parce que c'est important pour comprendre comment Allianz se voit dans le concert mondial des acteurs de l'assurance, c'est-à-dire un acteur européen qui doit demain faire face à des acteurs de plus en plus venant de l'Asie et puis encore des acteurs venant des États-Unis. C'est-à-dire comment être en Europe, incarner l'Europe au niveau de l'assurance et au niveau mondial. Ça, c'est... Alors, Allianz, nous, on est présents en France sur tous les métiers de l'assurance.
Donc un généraliste de l'assurance, vous êtes, ouais.
Sur tous les métiers, aussi bien pour les individus que pour les entreprises, quelle que soit leur taille, et sur toutes les formes d'assurance, que ce soit l'assurance dommage, l'assurance de votre automobile, l'assurance de votre entreprise, mais les assurances aussi de prévoyance, de santé.
Et longtemps, ça s'appelait les AGF, puisque vous avez notamment
Exactement.
Racheté les AGF en 2009. Et au niveau mondial, c'est 70 pays, je l'ai dit tout à l'heure, 140 000 salariés, 88 millions d'assurés, donc un groupe géant. Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express.
Oui, alors quand on parle de numérisation, big data, etc., ça peut paraître un petit peu flou. Là, il se trouve qu'au depuis le 1er avril, il y a un exemple très concret qui est donc les fabricants automobiles sont obligés maintenant d'équiper les nouveaux véhicules d'un système e-call, c'est-à-dire que quand la voiture a un accident, une carte SIM envoie tout de suite un message d'alerte pour dire où se trouve le véhicule, quel type de véhicule, quel est le propriétaire pour enclencher le dépannage du véhicule accidenté. Il se trouve que un GIE s'occupe d'e-call et en France, ce sont les assureurs qui en font partie. Et je voulais savoir si, dont Allianz, pardon, je voulais savoir si pour vous, ça allait représenter justement un nouveau business économique ou simplement quelque chose, un nouveau usage lié à la voiture connectée, parce qu'on pense souvent à la voiture connectée comme une voiture autonome, mais avant la voiture autonome, il y a la voiture connectée qui, elle, est déjà là. Donc de voir si ça implique et ça va créer de nouvelles opportunités pour vous.
Alors ça permet de préciser, l'assurance, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Et là, vous avez parlé en fait d'assistance. C'est un pan de l'assurance qui s'est développé, les assisteurs ayant... je dirais étant une branche de l'assurance qui s'est fort développée. Et vous le savez peut-être, c'est né en France, l'assistance, et ça s'est développé au niveau mondial. Et donc vous avez les plus gros assisteurs mondiaux qui sont en France, si ce n'est en Europe. Pour nous, ce n'est pas un changement majeur, parce que quasiment sur la plupart des véhicules, en tant qu'assuré, vous êtes assisté. Là, ce que vous évoquez, c'est le lien nouveau, et ça permet d'aller vers l'objet connecté. Le véhicule est connecté, il y a un choc, on ne répond pas, donc il y a un appel, on vous géolocalise et on envoie une urgence, éventuellement. Et ça, ça montre simplement la réalité. Quand on parle d'objets connectés, les premiers objets connectés qui sont autour de nous, c'est la maison, elle est connectée de plus en plus, c'est le véhicule qui est connecté, et c'est la personne qui est connectée à travers tous les objets que vous avez sur vous. Alors ça, c'est la vision de l'automobile connectée, dans sa partie prévention et aider les individus en cas de sinistre majeur, d'accident automobile. Puis après, vous avez tout ce qui va tourner autour du véhicule connecté. Et vous savez que véhicule connecté, vous avez un continuum en fait entre le véhicule semi-autonome qui deviendra un jour autonome et véhicule électrique. Et à partir du moment où vous avez véhicule électrique, semi-autonome, autonome, vous avez véhicule connecté. Parce qu'un véhicule tel que nous, on l'a conçu, c'était de la carrosserie, c'était du matériel et c'était du déplacement. Et de plus en plus, aujourd'hui, c'est une batterie, puisqu'il sera électrique. Le véhicule autonome sera électrique. C'est du soft. Et donc, si c'est du soft, c'est aussi derrière de la connexion.
Touriste Fez.
Bah justement, vous parliez évidemment, Emmanuel, d'e-call. Donc là, vous l'avez dit, on est sur de l'assistance, hein, sur une manière d'aider les usagers. Mais là, je lisais des interviews de vos collègues de plusieurs natures différentes qui disaient, voilà, à terme, dans 10 ans, ce type de dispositif aussi nous permettra de ne même plus avoir besoin, peut-être en cas d'accident, de faire un constat. Parce qu'on aura, grâce aux voitures, toutes les informations qui seront liées au véhicule, à qui était dedans, à quelle vitesse elle roulait, avec la géolocalisation, avec des capteurs qui sont autour. Si on regarde à 10, 20 ans, le fait que vous gériez, vous, pour le moment, que vous soyez directement connecté à ce type de dispositif n'est absolument pas anodin.
Alors, le fait qu'on soit... En fait, c'est embarqué dans le véhicule. Si je reviens sur le véhicule, c'est le lieu de toutes les batailles aujourd'hui. Les constructeurs automobiles, par définition, ils essayent de défendre leur véhicule. Vous avez les grands de l'Internet qui essayent d'être présents dans le cockpit et dans la visibilité automobile. Vous avez tout ce qui sont les sous-traitants et tous les équipementiers. Les équipementiers aujourd'hui fournissent des objets qui sont eux-mêmes connectés. Vous avez des équipementiers qui étaient prêts à faire de l'assistance téléphonique, par exemple, et qui ont des call centers. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu d'accessibilité à la donnée et non seulement au véhicule, mais éventuellement à l'événement.
On peut même penser que l'automobile va être un des secteurs les plus affectés dans les 10 années qui viennent.
Aujourd'hui, l'automobile, si vous voulez, l'automobile, elle est intéressante parce qu'elle permet concrètement d'expliquer et de voir ce qui se passe quand on parle d'objets connectés et de dislocation des frontières entre industries. Nous, on était assureur d'un véhicule et le constructeur automobile, pour nous, c'était un constructeur automobile. Demain, et l'équipementier, on ne le connaissait pas. Demain, on est tous autour d'un moyen de déplacement, et donc on est passé sur la question de la mobilité, vous avez parlé d'usage, on est plus sur la mobilité.
C'est-à-dire que vous n'assurez plus forcément le véhicule lui-même, ou à l'avenir la propriété, mais l'usage.
On va assurer l'usage, et je suis d'accord avec vous, on va aussi, avec la technologie qui est embarquée, être capable de simplifier la vie de nos clients, par exemple en cas d'accident, sur les données qu'ils doivent transmettre, etc. À partir du moment où ils l'acceptent. Puisque au fond, nous, tout notre combat, notamment autour du véhicule, c'est que ce soit le propriétaire et le conducteur qui aient la maîtrise des données qui sont sur le véhicule.
Le propriétaire étant parfois pas le conducteur, qu'est-ce qu'on fait pour assurer Blablacar, par exemple? Et lorsqu'on conduit, ça renvoie aussi à Airbnb pour l'habitation, quand c'est pas vous qui êtes là, et comment vous les assurez?
Vous avez des nouveaux besoins qui apparaissent. Ça, c'est typique effectivement, l'assurance est toujours, c'est un métier sociétal. C'est le reflet de l'évolution de la société. Et donc, aujourd'hui, typiquement, vous avez des nouveaux risques qui apparaissent, des nouveaux besoins. Alors, nous.
Comment vous gérez ça? Si c'est régulier, si c'est tout le temps, il faut une extension de garantie, comment on fonctionne?
Dans le cas de prêt de véhicule, effectivement, vous voulez que, parce que vous, dans cette économie collaborative, alors appelons ça un prêt, hein, temporaire du véhicule, même s'il y a des changes et des flux financiers entre temps, mais ce que vous assurez, votre assurance auto, elle n'est pas faite pour être celle d'un loueur. Donc en fait, ce que vous achetez, c'est une garantie parce que vous faites le prêt du véhicule. Typiquement, ce sont des nouveaux besoins qui sont apparus.
Mais justement, je lisais que, de manière théorique, on va de plus en plus vers une assurance de l'objet, vous parliez de la voiture, etc., vers une assurance de l'individu. Je pense qu'on en parlera aussi avec Alan, c'est-à-dire, on vient de le dire, on n'assure plus la voiture, on n'assure plus la maison, on va assurer quelqu'un dans tous les pans de sa vie, dans toutes ses relations avec l'extérieur. Ça pose évidemment beaucoup de questions, ne serait-ce que des questions techniques, et des questions évidemment où la donnée est au centre. Vous l'avez dit, encore faut-il que les gens en aient envie, en soient conscients, et la maîtrise, en tout cas la connaissance du type de données auxquelles vous avez accès, auxquelles eux ont accès. Comment est-ce qu'on gère ces évolutions-là?
Je ne suis pas sûr que c'est la personne qu'on a. Moi, je suis sûr, on assurait un objet, on va assurer
l'usage.
Objet, ouais. D'accord, c'est un petit peu différent.
Ça reste quand même la voiture. Ouais.
Ça peut être un déplacement. D'accord, il peut y avoir une personne, mais c'est surtout l'usage. Et ça, ce n'est que le reflet d'une société qui, de plus en plus, considère que être propriétaire et n'utiliser que partiellement n'a peut-être plus la même valeur. D'accord. Et donc, toute cette économie dite du partage s'est développée autour de l'idée que la propriété n'était pas nécessaire et que on pouvait avoir un nouveau modèle économique où on partageait l'usage d'un même bien. D'où de nouveaux besoins d'assurance.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors, ce qu'on semble voir aujourd'hui émerger, c'est d'une part, effectivement, des plateformes collaboratives sur lesquelles vous avez peu d'éléments sur la personne qui loue le véhicule, en réalité. Donc là, du coup, l'assureur fait payer assez cher, indirectement, et prend une commission au travers de la plateforme. L'utilisateur ne le voit pas, puisqu'il paye, et puis dessus, à l'intérieur de la commission, il y a une part qui vous revient. Et de l'autre côté, on va à l'autre bout du spectre, on voit aussi des offres où là, on demande à l'utilisateur de donner beaucoup de données sur lui. Je pense par exemple à ce que vous avez lancé qui s'appelle Pay How You Drive. Là, on passe toujours sur la conduite du véhicule. Donc on s'équipe d'un petit boîtier qu'on met dans son véhicule, un véhicule TomTom, qui va dire combien de kilomètres vous faites en gros par mois, est-ce que vous conduisez la nuit, etc. Et en fonction de votre mode de conduite. Et alors, justement, pas la vitesse, puisque la vitesse est interdite pour le coup, on ne peut pas calculer la vitesse, mais en fonction de ces éléments-là, vous allez faire payer plus ou moins cher l'assurance. Donc, d'un côté, très peu de transparence sur la personne qui loue, et de l'autre, une transparence quasi totale sur comment, moi, je conduis mon véhicule.
On touche plusieurs sujets, là. Effectivement, vous avez un objet, jusqu'à maintenant, je prends le véhicule, puisqu'on a commencé avec le véhicule, on connaissait le véhicule, le conducteur, ou les conducteurs désignés. D'accord. Demain, et puisque je suis dans l'usage, je ne connais plus le conducteur. Donc on est dans une forme d'apprentissage de comment on arrive à évaluer le risque. Parce qu'au fond, c'est un risque et puis on met un prix en face du risque. Je voudrais juste corriger, nous on prend une prime d'assurance, on ne prend pas de commission. Éventuellement, la plateforme prend une commission.
Oui.
D'accord.
C'est eux prennent la commission et vous reversent.
Nous, on a une prime d'assurance parce qu'on est assureur. Donc c'est nous qui assurons. Si jamais il y a un dégât quelconque, C'est nous qui payons, c'est pas la plateforme, d'accord. Et le deuxième sujet, c'est que il faut bien avoir en tête que les plateformes font naître des besoins, d'accord. Nous, on est effectivement, vous l'avez dit, très présents sur cette économie-là. Je vous avais cité, mais moi, il se trouve que nous, on assure Drivee, donc oui. C'est plus simple.
C'est ça pour Blablacar, je crois.
C'est un autre assureur pour BlaBlaCar. où on a CityScoot, si vous voulez, puisque ça se développe beaucoup.
Et Click & Boat, et Supermano, et Expedicar, voilà, et Lucky Lock, et Coup, et Virtuo,
voyez,
on peut en citer plein.
On est très présent sur ce monde-là. Mais quand vous rentrez, je dis souvent, c'est exactement la même chose que quand on a assuré le premier satellite. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Hein. Mmh. Et donc, à un moment donné, vous apprenez. Pourquoi on est rentré tôt et massivement? Parce qu'on veut apprendre vite. Pour avoir une évaluation du risque qui soit appropriée. Et après, la question du prix, c'est juste que ce soit le bon prix pour le bon risque.
Allez-y.
Non, sur les évolutions que l'on voit aujourd'hui, c'est que derrière cela, c'est tout l'enjeu demain de comment on assure en ayant de moins en moins d'informations. Et en même temps, vous avez des datas qui sont très présentes. Et je voudrais, puisque vous avez parlé du Pay How You Drive, du boîtier, c'est une offre que l'on fait à des clients en leur disant, si vous êtes volontaire et que vous voulez prendre le boîtier, on ne géolocalise pas, on mesure juste accélération, décélération et virage. C'est tout. D'accord ? Et avec ça, on a des techniques qui nous permettent de dire, c'est un conducteur raisonnable. D'accord ? Et si vous avez une conduite qu'on considère être mieux que la moyenne, vous aurez une baisse de tarif. Et d'ailleurs, puisque vous l'avez cité, la baisse de tarif sur ce portefeuille de clients qui ont accepté de rentrer dans cette pratique est de 15% aujourd'hui. Donc en fait, c'est vertueux. Et ça touche à un autre point que vous avez cité tout à l'heure, c'est quand même l'individualisation. Parce qu'il ne faut pas oublier...
Et donc le besoin de personnalisation des garanties.
Ouais. Exactement. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, c'est une demande de consommateur. Il est très difficile de vendre quelque chose que les gens ne veulent pas. D'accord ? Vous répondez toujours à un besoin. Et le besoin aujourd'hui est énorme en termes de personnalisation. Ça peut être paradoxal parce qu'on vient de parler d'économie collaborative. Et il faut arriver à vivre avec ces deux tendances fortes. Un, je veux être reconnu comme étant différent de mon voisin. Et deux, j'appartiens à une communauté. Et je suis dans une économie collaborative. Et c'est ça, pour nous, qui est intéressant aujourd'hui, dans notre métier, c'est d'arriver à appréhender les deux. De la même manière que vous avez des gens qui vont vouloir être uniquement sur le prix le plus bas possible, puis après, ils vont vouloir être premium. Et c'est le même individu.
France Culture, 19h37, on parle ce soir des assurances et comment le secteur de l'assurance connaît une mutation, une transition du fait du numérique. Nous sommes avec Jacques Richier, le PDG d'Allianz France, l'un des principaux groupes européens et français d'assurance, avec d'ailleurs vos concurrents qui s'appellent AXA, Generali, ainsi que dans le mutualisme, la Maïf, la Massif, la Madmut, etc. Nous sommes également avec Jean-Charles Samuelian, vous êtes le fondateur d'une start-up qui s'appelle Alan, qui a réussi à obtenir ces dernières semaines, c'était quand exactement, une levée de fonds importante?
Oui, on a annoncé une levée de fonds de 23 millions d'euros la semaine dernière, qui est un peu la consécration de nos 2 ans d'existence où on est devenu assureur. On est une assurance complémentaire santé, donc on assure la santé des Français et on essaye et on pense, on est le seul acteur qui est 100% numérique et qui s'est créé vraiment sur l'expérience utilisateur et sur comment repenser complètement ses usages. Et on parlait d'usage et nous on aime bien parler plus d'expérience que d'usage et je pense que notre métier de demain, nous, ce serait d'assurer les services et les expériences en santé qui ont vécu jusqu'à aujourd'hui sur la complexité, le manque de transparence et le manque de confiance qui étaient des choses que vous avez évoquées. Et
alors, nous, pas tout à fait une petite start-up, puisqu'avec 23 millions d'euros de levée de fonds, c'est déjà gros, on peut dire. C'est même, vous allez vers la licorne française, comme on dit. C'est start-up évalué à plus d'un milliard tout en n'étant pas coté en bourse. Quand vous avez entendu Jacques Richier depuis le début de cette émission, patron d'Allianz France, comment est-ce que vous positionnez? Vous l'avez dit un peu, mais rentrons dans les détails du dossier. Qu'est-ce qu'une start-up numérique, intégralement online, peut permettre qu'un assureur traditionnel, qui d'ailleurs lui-même est aussi en ligne, ne permettrait pas de fournir?
Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Nous, ce sur quoi on se concentre beaucoup, c'est avoir un regard assez extérieur sur un métier qui a été construit de façon assez progressive, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de nouveaux acteurs depuis 30 ans. Et ce qu'il veut dire, c'est vraiment se concentrer sur qu'est-ce que le numérique permet. Et qu'est-ce que le numérique permet, c'est repenser complètement l'interaction avec l'utilisateur final. Et nous, nos utilisateurs, c'est par exemple des entreprises petites et moyennes. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est une part du marché qui était parce qu'ils étaient très difficiles d'accès, ils sont beaucoup, mais ils ne rapportent pas énormément de primes, donc coût d'acquisition client très cher pour les assureurs, ce qui était plutôt mal servi. Et comment le numérique permet de les servir avec un meilleur produit d'assurance, plus rapidement, plus de transparence sur l'offre, plus d'aide à la décision.
Alors tout ça, c'est possible grâce à quoi ? Grâce aux données, qu'est-ce que vous avez besoin ? Qu'est-ce que vous connaissez de plus des gens ? Ou est-ce que c'est tout simplement qu'il y a moins de salariés intermédiaires ?
En fait, on coupe complètement les intermédiaires, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une concentration vraiment sur les usages et l'expérience. C'est-à-dire, nous, on est assez peu, même si on est un assureur et on est agréé par l'autorité de contrôle prudentiel, qui est cette branche de la Banque de France, on se considère comme une boîte de technologie et de produits qui fait de l'assurance. Et en fait, le gros de l'équipe, nous, c'est des designers, ce qu'on appelle des software engineers, des développeurs, des gens qui sont des développeurs produits. Et on se concentre vraiment et on passe un temps assez fou à réécrire. Enfin, le travail sur notre grille de remboursement, par exemple, ça a été des mois et des mois de travail avec des tests utilisateurs, etc., pour que quelqu'un essaie de comprendre ça. Et je pense un des gros enjeux de l'assurance aujourd'hui, quel que soit le métier, c'est de se dire quels sont, de se décentrer sur soi-même, et parce que c'était un risque, c'est un métier d'actuaire qui était très centré sur la gestion des risques, et de se recentrer sur l'utilisateur final et ce qu'on peut apporter. Et après, la technologie, ce qui est assez magique et ce qu'elle permet, et nous, notre force en tant que start-up, c'est d'attirer les meilleurs talents de la Silicon Valley sur un secteur qui est plutôt considéré comme pas très sexy, malheureusement, et de les attirer pour résoudre ces problèmes. Et la technologie permet, en fait, l'automatisation des usages et de faire gagner du temps et de créer des... Nous, ce qu'on aime bien, c'est essayer de créer des effets waouh, de magie à chaque interaction.
Wow.
Ouais. Et c'est dur à faire dans l'assurance.
Et quand on regarde un modèle comme le vôtre, qu'est-ce qui est vraiment disruptif ? Est-ce que c'est le fait d'être une start-up ou est-ce que c'est le fait d'être sur l'assurance ?
Je pense que c'est un peu les deux, parce que être une start-up dans l'assurance, c'est assez unique. En tout cas, nous, on est le seul acteur
un peu important en France.
En France, qui fait de l'assurance et qui a un agrément. Et on est très peu en Europe et très peu dans le monde, en fait. Et après, c'est vraiment avoir cette approche à la fois en termes d'organisation d'entreprise, donc de start-up pour résoudre ces problèmes. Et après, la manière dont on crée du produit. Et nous, ce qu'on voit, nos utilisateurs, et ce qui nous touche, c'est quand on nous dit... Je ne pensais pas que c'était possible d'aimer ma mutuelle. Et en fait, grâce à la magie de la technologie, du service, d'une approche mobile first, donc qui est d'abord mobile, par exemple, on change ça. Et c'est donc s'adapter à ces nouvelles générations qui ont réussi à vivre, enfin qui ont appris à vivre via Internet, qui achètent leur nourriture, leur voyage en deux clics. Comment on applique cette même expérience dans l'assurance ? Et par extension, et c'est ce que Jacques disait tout à l'heure, c'est comment l'assurance est juste... doit disparaître quasiment. Ce qu'on veut, c'est que l'expérience de quelqu'un dans un achat ou nous dans la santé, ben, on la rende la plus transparente et la plus simple possible.
Alors Jacques Richer, vous avez écouté votre concurrent d'une certaine manière, plus que concurrent, Jean-Charles Samuelian de la start-up Alan. Alors d'abord, pourquoi est-ce que tout ça, vous ne l'avez pas fait vous-même ? Et ensuite, je ne sais pas, il faut le racheter, vous allez le recruter, il aurait fallu le recruter plus tôt ?
Oui, alors, il y a plusieurs choses. Ce qui est intéressant, Jean-Charles a commencé par la partie expérience. D'accord. Je pense que vous soyez assuré chez Allianz ou chez Alan.
Ou chez AXA ou chez Generali.
Ce que
oui.
Vous voudrez à un moment donné, c'est que c'est effectivement cette expérience de relation avec l'entreprise qu'elle se passe
une
le mieux.
Une petite start-up n'est pas plus agile pour le faire qu'un grand groupe ?
Il est plus difficile de transformer un grand groupe que de créer de ex nihilo. Ça, on sera vite d'accord. Mais l'intérêt de voir des créations telles que celles que Jean-Charles évoque avec Alan, c'est que nous aussi, ça nous incite à aller plus vite. Et nous, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ces questions de transformation et de digitalisation de la relation avec nos clients. La seule chose, c'est que, et si je peux me permettre une pique, c'est qu'on adresse tous les clients. Parce que le choix qui est fait, nous on est multi-accès, c'est-à-dire que si vous voulez
généraliste,
passer...
Généraliste, oui.
Non, multi-accès. C'est-à-dire que si vous voulez souscrire, avoir une relation en santé par exemple, vous pouvez le faire par un agent, puisque vous avez cité un agent, mais vous pouvez le faire par internet, vous pouvez le faire par téléphone, vous pouvez le faire par un courtier ou par des banquiers avec lesquels on pourrait travailler. D'accord ? Si vous êtes stricto sensu digital, c'est-à-dire que vous imposez un canal... Déjà, vous avez imposé un mode de relation. Moi, je suis pour la liberté. C'est-à-dire, je dis multi-accès, mais c'est parce qu'on a des réseaux, peut-être qu'on le dit. Simplement, les tests que l'on fait montrent qu'aujourd'hui, sur le marché français, il est important de laisser la liberté d'accès parce que...
Et de pouvoir passer de l'un secteur à l'autre, on commence sur Internet,
exactement,
on continue.
Vous avez parlé des comparateurs, beaucoup de gens vont sur les comparateurs, très peu font souscrivent en direct, très peu.
Juste ils regardent et après ils appellent.
Ils regardent. Et on vient de faire une enquête là. C'est intéressant parce que, alors, il y a une génération, il y a un effet générationnel, mais c'est faux de dire que c'est une question d'âge. Aujourd'hui, et peut-être que c'est le défaut et le problème de l'assurance, c'est on se dit c'est pas transparent, il y a une entourloupe, il y a quelque chose qui est pas clair, etc. Même sur Internet, puisque en direct, nous on teste ça aujourd'hui et on demande pourquoi vous étiez full direct et pourquoi tout d'un coup vous avez décidé d'appeler et d'aller voir un agent. Parce que j'ai un peu de crainte et j'aimerais bien avoir quelqu'un avec lequel j'ai un échange.
Une réaction rapide, Jean-Charles Samuelian de Alan sur ça.
Je suis assez d'accord, mais je crois aussi il y a toujours cette différence de vision sur comment le monde va évoluer. Et si on prend le e-commerce, donc l'achat en ligne, il y a 15 ans, il y avait beaucoup de personnes qui disaient que l'achat en ligne était extrêmement compliqué, je ne sais pas si je serai livré, comment marcherait le paiement, etc. Et on voit après des acteurs américains ou autres qui ont émergé et qui ont pris des parts de marché assez colossales avec une offre qui est 100% en ligne où on n'appelle personne. Et la question, c'est est-ce qu'on est capable de rendre l'expérience en assurance et retirer la friction, parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est retirer la friction pour amener... la friction, parce qu'en fait, si aujourd'hui, vous achetez sur le plus gros acteur mondial en ligne, c'est parce que vous êtes livré le jour même ou le lendemain, que c'est extrêmement simple et c'est deux clics. Et en fait, ils ont rendu ça plus simple qu'autre chose. Et comment on rend ça plus simple qu'autre chose? Je pense qu'à horizon 10 ans, on trouvera assez bizarre de ne pas acheter de l'assurance en mobile, en fait. Et parce que ce sera notre ADN de tout acheter par là.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors dans les assurtech, il y a une société dont on parle beaucoup qui s'appelle Lemonade, qui est aux États-Unis. Aujourd'hui, la force de cette société, c'est justement, pour rebondir ce que vous disiez, c'est une interface, une charte graphique très séduisante, des chatbots pour discuter directement avec les clients. Donc, c'est pas des humains nécessairement qui discutent, en tout cas dans les premières étapes, avec un salarié, mais plutôt un logiciel d'intelligence artificielle qui, en gros, conduit l'utilisateur vers l'offre la plus appropriée. Est-ce que ça, du coup, une société comme la vôtre, mais on pourrait parler d'AXA ou de Generali, hein, peut un jour se transformer et devenir, entre guillemets, cool par rapport à des startups comme celle-là qui...
D'abord,
je suis désolé pour le côté cool.
Je considère qu'on est cool. il faut... Quand vous avez commencé à parler tout à l'heure d'économie collaborative et de plateforme. L'assurance est embarquée. Elle est totalement digitalisée. Donc on ne vient pas de nulle part, on existe. On est capable aujourd'hui de servir les clients qui le souhaitent totalement en parcours digitalisé. On sait le faire. Vous évoquez Lemonade. Lemonade, c'est aussi un cas intéressant parce que, d'abord, Allianz est actionnaire. Bon, ça c'est un scoop, mais... c'est New York, c'est pas la campagne.
Oui, hein. C'est vrai.
C'est New York, les appartements, et uniquement les appartements dont vous êtes propriétaire.
Okay.
Bon. Bon, après, ils élargiront. Mais
ça limite.
Et il y a beaucoup d'intelligence artificielle. Là où, où c'est intéressant de regarder ce qui se passe chez Lemonade, c'est effectivement que derrière, ils développent très vite. Ils font de la data. Alors, on est aux États-Unis, donc la question de la data est gérée.
Elle est plus libre.
Hein. Mais ils font aussi de l'intelligence artificielle un des éléments clés de leur différenciation et de leur succès de demain.
Lorsque on vend de l'assurance, notamment en l'occurrence d'un mutuel complémentaire santé, sujet avec beaucoup de questions de données, le rapport Hirsch par exemple proposait de renationaliser l'assurance santé parce que c'était pas une assurance comme une autre. Il y a aussi beaucoup de critiques qui ont été faites et puis les mutuelles en sont devenues aussi obligatoires par les entreprises, par la loi Annie. Qu'est-ce que les data vont permettre? Est-ce que par exemple, je ne sais pas, si, sur ma page Facebook, si j'ai une photo où je fume une assurance plus chère.
C'est une espèce de fantasme.
Ça, c'est Orwell,
non,
oui.
Non,
mais
ça,
on peut poser la question.
Mais en santé, l'idée que les assureurs en France aient accès à la moindre donnée. On n'a accès à rien du tout.
Non, mais vous pouvez éventuellement.
Attendez, non, mais la réalité, c'est d'abord qu'on est assureur complémentaire. Le marché français, c'est un assureur complémentaire. C'est pas l'assureur au premier euro.
Primaire.
C'est l'assurance maladie. Il y a des problèmes avec la CNIL de son côté, mais ça, c'est un autre sujet.
Ça, c'est, oui. Alors, bon, chacun a ses problèmes. nous, on arrive en complément, et donc, de toute façon, on paye en aveugle. C'est-à-dire que derrière, on nous dit, reste votre médecin, 20%, paf, on paye 20%. Je ne sais pas qui est le médecin, tout ça, puisque nous, on vous paye directement. Et si c'est en tiers payant, c'est pareil. D'accord ? Aujourd'hui, on va vers des contrats qui sont de plus en plus encadrés. Alors, il y a des contrats responsables, peu importe. Et là, l'actualité, effectivement, c'est le zéro reste à charge. Donc on voit que nécessairement, vous avez des garanties qui sont définies et des remboursements qui sont définis. Donc notre rôle va être de plus en plus difficile. D'ailleurs, je trouve que c'est courageux d'Alan d'avoir attaqué ce secteur qui est un secteur très régulé et très politique.
Pourquoi avoir attaqué par ce secteur ?
En fait, nous, notre vision en tant qu'entreprise, c'était plutôt de repenser la santé et de faire en sorte que ce soit beaucoup plus simple et d'être en bonne santé. Et on s'est juste dit que l'assureur était un peu cet acteur clé parce qu'il était au milieu du système et interagissait avec tout le monde, de l'utilisateur final au système de santé. Et du coup, on a commencé par ça, extrêmement régulé. Et on voit ça, nous, plutôt comme une opportunité assez extraordinaire d'apporter des services qui sont complémentaires à ce qu'on fait, qui vont aider à prendre des meilleures décisions dans le système de santé, à donner plus d'aide dans les choix. Ben, en fait, aujourd'hui, c'est assez difficile, par exemple, de savoir combien vous serez remboursé avant d'aller chez un médecin. Et c'est une fonctionnalité qui n'existe pas. Et on trouve que nous, c'est assez intéressant en tant qu'assureur de donner cette information à nos utilisateurs pour qu'ils puissent prendre des décisions plus éduquées. Et ça, c'est le court terme. Et le long terme, c'est toujours sur nos enjeux de métier, mais la santé, comme toutes les industries, vous en parlerez sûrement ici, est en train d'être transformée complètement par une vague technologique hyper forte. Et ça va peut-être prendre 5, 10, 15 ou 20 ans. Et nous, on pensait qu'être l'assureur et donc avoir un peu cet accès à la data nous permettait de suivre cette vague technologique.
Un peu.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
En 19h51, nous parlons des assurances, le secteur de l'assurance en mutation, confronté à la transition numérique. Et j'ai proposé à François Ewald, sociologue, historien, spécialiste notamment de l'histoire du risque. On a, quand on était jeune, parfois lu son livre « L'État-providence » sur lequel on avait travaillé. C'est aussi un foucauldien, puisqu'il a coédité les livres « Dits et écrits » de Michel Foucault. Bonsoir François Ewald.
Bonsoir.
Alors vous avez écouté depuis le début de cette émission à la fois le gros et le petit, si j'ose dire, Allianz France et puis la start-up. Quelle réaction vous avez sur ce que vous avez entendu ?
Ma réaction, ce serait par rapport au sujet que vous abordez, c'est-à-dire finalement, de quoi est-ce qu'il a été question par rapport aux transformations qu'on peut attendre de la digitalisation. Quand on parle d'assurance, je crois qu'on parle de trois choses différentes. On peut parler de trois choses différentes. Il y a d'une part une fonction sociale qui consiste à apporter de la sécurité ou de la protection financière. Il y a cette fonction sociale, elle est, comme tout le monde le sait, extrêmement importante, c'est un besoin social fondamental. Il y a deuxième idée, il y a les institutions qui mettent en œuvre cette fonction. Alors là, on a aujourd'hui, avec Jacques Richier et je n'ai pas bien retenu son nom, le patron d'Alan.
Jean-Charles Samuelian.
Deux institutions qui mettent en œuvre la réponse à ce besoin. Et puis, troisièmement, vous avez l'assurance, ce sont des techniques de gestion de risque. Alors aujourd'hui, vous m'avez rappelé que j'ai travaillé sur le risque, mais à l'époque, on parlait, le risque était identifié à l'assurance. Maintenant, on identifie plutôt l'assurance aux données. Mais en fait, la question là où la digitalisation concerne beaucoup l'assurance du point de vue technique, c'est que ce qu'on a pris conscience, c'est qu'en fait, un risque, c'est jamais qu'un ensemble de données. C'est en fait des morceaux d'informations sur des événements futurs et qui sont donc complètement liés aux données. Alors, dans ce que j'ai entendu là, est-ce que la fonction sociale de sécurité est touchée ? Non. Est-ce que les institutions sont vraiment touchées ? Un peu. Pourquoi dans un domaine particulier qui est essentiellement la distribution, qui était en fait l'organisation du marché d'assurance tel qu'il existe. Mais dans ce que j'ai entendu, je ne vois pas la transformation des techniques d'assurance. Je ne vois pas l'apparition de nouveaux paradigmes. Même quand on parle de l'individualisation des données, même de la personnalisation, il restera toujours que si vous voulez faire de l'assurance, il faut mutualiser. Et la personnalisation n'est pas contre la mutualisation. Alors, on a
François Ewald, comment vous voyez cette mutation, les mutations de ce secteur, vous qui le suivez depuis plusieurs décennies, qui en avez été l'un des historiens, notamment dans l'État-providence, comment est-ce que ce secteur est en train de se transformer, selon vous ?
Bien, la discussion que nous avons eue, que nous avons entendue tout à l'heure, montre comment il y a toute une série de transformations dans le rapport des entreprises les unes avec les autres. C'est-à-dire comment elles recrutent, comment elles offrent les services d'assurance. Donc il y a des batailles de marché, et ces batailles de marché sont susceptibles d'avoir des conséquences pour les assureurs existants, dans la mesure où elles modifient les portefeuilles, si vous voulez. Quand l'entreprise Alan arrive sur la complémentaire santé, elle va proposer, elle va faire une offre qui fait qu'il y a des adhérents d'Alliance qui vont partir. Et à ce moment-là, ça change la nature du portefeuille d'Alliance. Donc c'est important, même si ça reste marginal. Donc ces batailles de marché, ce que je redoute un peu, c'est qu'elles renforcent des processus qu'on appelle dans l'assurance de sélection ou d'antisélection, ou la crainte de l'antisélection, et donc l'individualisation. Parce qu'on peut espérer aussi, et moi ce serait mon espoir, c'est que toutes les nouvelles entreprises comme les anciennes travaillent dans le sens de faire que les services d'assurance, que le paradigme de l'assurance soit tel qu'il permette d'étendre l'assurabilité plutôt que de la réduire. Je pense que ça, c'est le véritable enjeu aujourd'hui. C'est comment utiliser ces technologies, non pas simplement pour se battre sur le marché tel qu'il existe actuellement et se prendre des clients, mais comment faire pour que l'offre soit telle qu'il y ait plus d'assurabilité et non pas moins d'assurabilité. Alors vous me demandez les conséquences. Il y a malgré tout aujourd'hui des conséquences dans les techniques d'assurance qui sont importantes. Quand on parle de ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'usage par rapport à la propriété, oui, jusqu'alors, quand vous assuriez une auto, vous assurez son conducteur, et vous l'assurez sur des périodes de temps. Et pendant ce temps, il y a beaucoup de temps où la voiture ne fonctionne pas, la voiture est au garage. Alors ce à quoi on assiste aujourd'hui, par exemple, c'est l'assurance que l'on va prendre au moment où l'on prend la voiture. Au moment où on va demander sur son téléphone portable de bénéficier d'une protection pour un usage déterminé et qui n'excède pas le temps de l'usage.
Alors ça, usage et donc personnalisation plus grande.
On avait des mutualisations sur la base de portefeuilles un peu statiques, et la grande problématique des compagnies d'assurance était de maintenir stable leur portefeuille à partir du moment où il avait certaines caractéristiques qu'ils souhaitaient. Et là, quand vous êtes là, on ne devrait plus parler d'assurance de stock, mais d'assurance de flux. C'est-à-dire que vous avez une quantité de petits risques, enfin de petits risques, pas nécessairement de petits risques, parce que quand vous prenez une voiture, celui qui prend une voiture, à l'instant où il prend la voiture et qu'il se met en circulation, il engage pour sa responsabilité un risque qui se monte aujourd'hui, je crois, à 8 millions d'euros, ce qui est le coût le plus élevé d'un accident auquel il peut être demandé.
Confronté, ouais. Merci infiniment François Ewald d'avoir été avec nous pour conclure au fond cette émission. Peut-être une toute dernière question à vous, Jacques Richier, PDG d'Alliance. On l'a évoqué un petit peu, mais quels sont les nouveaux risques qui apparaissent et qu'il faut assurer? Je pense notamment au changement climatique, aux cyberattaques, aux risques cyber, à l'assurance e-réputation, etc. Vous travaillez sur tout ça ?
Alors c'est intéressant parce que le thème justement à la mode, je dis justement parce que c'est approprié, c'est le cyber-risque. Parce qu'on a commencé avec l'automobile, mais une automobile sans conducteur ou semi-autonome qui est bourrée d'informatique et avec des capteurs à l'extérieur, effectivement le cyber-risque est... Pour pouvoir avoir des véhicules autonomes demain, il faut avoir confiance. Et pour avoir confiance, il faut être comme dans les avions, se dire que le cyber-risque n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a sécurisé. Or là, on est en train d'apprendre. Ça, c'est clair. Après, nous, dans notre métier, c'est vrai que les questions d'allongement de la vie humaine, par exemple, ce sont des questions importantes. De réchauffement,
c'est une bonne chose, changement. Mais évidemment, en termes d'assurance, ça a des conséquences.
Non, mais c'est comment on le prend en compte, puisqu'on a des engagements de long terme. Hein. Faut pas oublier que, par exemple, sur l'assurance vie ou des garanties de long terme, on peut prendre des engagements sur 40 à 60 ans. Donc, il faut pas trop se tromper non plus. Sur tout ce qui est changement climatique, c'est majeur. Ça, on le vit en tant que citoyen avec les catastrophes naturelles. Et donc demain, comment on le prend en compte?
Voilà, là vous avez... C'était passé à Lourdes avec le gave de Pau qui avait débordé, ou encore, je ne sais pas, l'Ouvèze à Vaison-la-Romaine. Et donc évidemment, tout ça, c'est parfois difficile à prévoir, ça n'arrive qu'une fois par siècle, quelquefois.
Mais là, c'est de plus en plus fréquent.
Voilà, c'est le changement, c'est les assurances qui doivent aussi changer avec le changement climatique. Tout change. Merci infiniment, Jacques Richier, d'avoir été notre invité ce soir, PDG d'Alliance France. Merci à Jean-Charles Samuelian, patron, fondateur de Alan, une start-up dédiée à la mutuelle santé. Merci infiniment à vous, Zoé Sfez, et à vous, Emmanuel Paquet, d'avoir été dans cette émission. Je remercie aussi Yassir Hamoud et Maxime Chipoy qui m'ont aidé à préparer cette émission. Pour aller plus loin sur les assurances à l'heure numérique, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur le site de l'émission Soft Power, sur le site de France Culture. Dans un instant, seconde partie de cette émission, le débat. On parlera du numérique et politique autour de Facebook avec le scandale Cambridge Analytica. Et dans un instant, dans exactement 30 secondes ou une minute, Zoé Sfez, vous recevez Joséphine Bouchez pour Ticket for Change.
Voilà, elle est face à nous.
Tout cela à suivre après Fakir sur France Culture. À l'instant, Théo le Vigoureux, alias Fakir, un Normand de 26 ans qui innove. Oui, Théo le Vigoureux, c'est son nom.
Toujours.
Non, mais c'est son nom. Il innove
dans la
musique électronique. Son nouvel album All Glows est sorti cette semaine. On y retrouve notamment le trompettiste Ibrahim Malouf.
Ça, c'est bien.
Une façon de mélanger les genres, d'élargir son audience et de surprendre. Fakir sera en concert en avril et mai à Morlaix, à Saint-Lô, à Saint-Brieuc et à Mons, puis à Bruxelles et en tournée au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfez.
Bonsoir Joséphine Bouchez.
Bonsoir,
vous êtes là parce que vous êtes la cofondatrice avec 4 autres personnes, on va y revenir, de Ticket for Change, association mais aussi entreprise, on va y revenir, alors vous allez nous expliquer exactement ce qu'elle fait, mais en tout cas vous êtes là parce que vous allez participer, vous allez intervenir à la journée de la femme digitale. La journée de la femme digitale, c'est un moment qui a lieu le 17 avril prochain, et pour la première fois cette année d'ailleurs ça aura lieu à Radio France, qui a pour but, je crois, de pousser les entrepreneuses et ce qu'on appelle aussi les intrapreneuses, c'est-à-dire les femmes qui ont des positions, disons, d'influence au sein de grands groupes, notamment dans le digital. On va revenir sur cette question de la place des femmes dans le digital, mais avant cela, revenons sur Ticket for Change, qui est donc à la fois et une association et une entreprise, qui a 4 ans, que vous avez cofondé à 4, en fait maintenant vous êtes 5. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est que ce Ticket for Change, dont le nom est assez évocateur? Concrètement, comment vous vous définissez?
Alors concrètement, on est une start-up sociale qui a pour but d'inspirer, de former, d'accompagner ce qu'on appelle les acteurs de changement. Et pour nous, les acteurs de changement, c'est des individus, quel que soit leur âge, leur parcours, leur formation, qui ont envie de mettre leurs talents et leurs compétences au service de leurs convictions et qui, dans le cadre de leur travail, vont contribuer à résoudre un problème urgent et important de société.
Alors justement, qu'est-ce qui vous différencie, je vais poser des questions très bêtes, d'un incubateur lambda ou d'autres endroits comme ça? C'est quoi votre angle d'attaque précis?
Ouais. Nous, on aime bien se définir comme un incubateur de talent. En fait, ce qui nous différencie, ou en tout cas ce sur quoi nous, on met toute notre attention, c'est l'accompagnement des personnes. Donc c'est permettre à n'importe quel individu d'identifier ses talents uniques, ce qu'il aime faire, ce dans quoi il est bon, ce à quoi il a envie de contribuer et de l'aider, de l'accompagner à faire les premiers pas pour faire en sorte que son travail, sa vie professionnelle, ben, matche et corresponde avec ces éléments.
Alors effectivement, d'ailleurs sur votre livre de présentation, on voit qu'il y a plein de ces mots disruptifs que l'on connaît aujourd'hui. En gros, c'est à la croisée du coaching, un peu de l'incubation, un peu de ce qu'on appelait un peu des conseillers d'orientation. Il y a un truc un peu de cet ordre-là quand même.
Ouais, clairement, c'est ça. C'est essayer de réinventer ces questions et de remettre en fait... au cœur de nos questionnements sur notre vie pro et notre vie perso, comment est-ce qu'on essaye d'être à la bonne place, donc d'être au carrefour entre ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, ce pourquoi on va être utile, qui répond à un besoin en gros de la société et ce qui va nous permettre d'être rémunéré.
Donc c'est souvent des projets en plus qui ont vaguement souvent un lien, d'ailleurs j'ai regardé sur le type de projet que vous avez accompagné, que vous allez accompagner, il y a toujours... presque une espèce de portée sociale, souvent en tout cas.
Ouais, sociale ou environnementale, c'est vrai qu'on a parfois plus ou on voit un peu plus de projets sociaux, mais en tout cas les deux dimensions sont là, sociale et environnementale. Pour nous, ce qui est important, c'est que la finalité, permette de construire une société qui soit un petit peu plus respectueuse des hommes, des femmes et de l'environnement. Et ça, de le faire par des projets professionnels, que ce soit en entreprise ou en créant sa propre entreprise.
Alors vous, d'ailleurs, vous avez donc créé cette entreprise, association, ça fait 4 ans. Vous êtes 16 salariés. Vous avez reçu, je crois, un prix de la part de Google, si je ne m'abuse, il n'y a pas si longtemps. Ouais. En quoi est-ce que c'est numérique, cette affaire? Pourquoi est-ce que ça a une portée digitalisante? Qu'est-ce que c'est le cœur de votre activité concrètement? Là, vous m'avez donné les lignes, mais concrètement, qu'est-ce que c'est vos moyens d'action?
En gros, pour nous, le numérique, c'est vraiment un moyen de démultiplier notre impact, en fait, de toucher beaucoup plus de gens sur beaucoup plus de territoires. Donc, on crée des offres, des produits, des parcours, des offres numériques qui permettent de toucher beaucoup plus de monde.
Deux exemples,
le cours en ligne Devenir entrepreneur du changement qu'on a co-créé avec HEC Paris, 70 000 inscrits dans 160 pays. C'est 7 modules étalés sur 7 semaines que vous pouvez suivre pour faire vos premiers pas d'entrepreneur du changement. Et un tout nouveau produit numérique qu'on a lancé la semaine dernière qui s'appelle Vécu et qui partage sous format audio, donc c'est des podcasts de 10 à 15 minutes, des apprentissages et conseils très concrets d'entrepreneurs qui ont vécu des situations, que ce soit des galères ou des succès. En tout cas, ils nous partagent ce qu'ils en ont retenu pour aider les futurs entrepreneurs du changement à eux aussi gagner du temps et de l'énergie sur ces questions et être débloqué.
Vous m'avez dit que vous l'aviez surnommé anti-Instagram de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire contre la success story pleine de nuages et de beaux jeunes gens avec des beaux pulls, c'est ça?
Exactement, le but c'est de parler vrai en fait sur ce que c'est que être un entrepreneur du changement et de démystifier en fait l'image qu'on peut s'en faire, donc à la fois de valoriser les succès et les apprentissages qu'on en tire et en même temps de dédramatiser en gros les échecs qui peuvent nous arriver.
Alors justement, parlons-en, parce que vous avez créé cette société, vous êtes 5, sur ces 5 cofondateurs, il y a 3 femmes. Vous vous exprimez dans le cadre de cette journée de la femme digitale, c'est cette semaine. Justement, il y a beaucoup de femmes qui s'adressent à vous, parce que évidemment, on le sait, on ne cesse de le redire, les femmes manquent. Déjà, en termes de création d'entreprise, on sait que beaucoup s'autocensurent. Et alors, encore plus dans cet écosystème du numérique, on manque de femmes. Je l'ai dit en introduction, j'ai fait le constat que malheureusement, dans cette case, sur une trentaine d'émissions, je crois avoir reçu un peu moins de 4 femmes. Vous êtes la quatrième, ce qui est quand même relativement peu. Vous, comment est-ce que vous lisez ça? Est-ce que c'est une question sur laquelle vous avez travaillé? Peut-être pas au début, mais en termes de chiffres, en termes de genre, qui s'adresse à vous? Et quels sont les projets qui fonctionnent à la fin?
Ouais, on a réalisé une mesure d'impact sur notre activité entre 2014 et 2016.
Parce que vous, le cœur de votre métier, c'est donc d'aider des gens à développer des projets justement dans le travail.
Exactement. On se rend compte qu'il y a près de 60% de nos participants bénéficiaires qui sont des femmes contre 40% d'hommes. Donc, a priori, plus de femmes. Je pense que c'est aussi dû au fait que la finalité, c'est justement des problématiques sociétales. Donc, peut-être ça.
Ou environnementales.
Ou environnementales, ça attire peut-être plus de femmes. Et ensuite, dans le passage à l'action, quand on compare ceux qui sont vraiment devenus entrepreneurs à la suite de nos programmes, il y a plus d'hommes
que
de femmes. Ça, c'est dû à des freins qui sont spécifiques. Bon, il y a tout un tas d'inégalités qui existent et qui doivent être combattues, mais il y a aussi des freins qui sont spécifiques aux femmes. J'en vois deux principaux. Un, c'est le manque de peut-être de modèles, d'inspiration, de valorisation. Vous l'avez dit, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont intervenus dans cette émission. C'est ce qu'on voit aussi parfois dans les médias. Donc c'est un manque de voilà de rôle modèle féminin. Et je pense le deuxième grand facteur, on va dire, c'est le manque de confiance en soi. Quand on étudie pourquoi est-ce que il y a plus d'hommes que de femmes qui sont vraiment devenus entrepreneurs, c'est parce qu'elles pensent qu'elles manquent de compétences, qu'elles ont passé l'expertise, parce qu'elles ont trop peur que ça remette en question leur équilibre familial, personnel, professionnel. Donc voilà, c'est un, le manque de modèle, et deux, le manque de confiance en soi sur certains sujets.
Donc concrètement, elles ne vont pas abandonner, mais par exemple, elles vont rejoindre un projet déjà existant au lieu de faire leur propre truc à elles, qui pourrait être l'idée par un homme, par exemple.
Par exemple.
Et alors, justement, question, vous l'avez dit, comme on est sur cet angle spécifique avec tout ce discours sur la volonté justement de se réaliser, d'être dans les talents, il y a beaucoup de femmes, 60%, c'est assez fort. Est-ce que par exemple, sur des projets qui sont plus financiers, etc., vous avez tout autant de femmes? Pas forcément.
Je sais pas, je travaille pas dans ce... Enfin, j'ai pas de comparaison par rapport à l'écosystème classique, ce serait intéressant de voir. Peut-être que la journée de la femme digitale donnera un certain nombre de chiffres ou d'informations là-dessus. En tout cas, ce qu'on voit, c'est sûr que sur des questions plus techniques ou plus spécifiques, des enjeux peut-être financiers ou qui concernent l'organisation perso, les femmes rencontrent plus de difficultés. Et je pense que c'est dû à de l'autocensure, manque de confiance en soi.
Et alors c'est intéressant parce que vous l'avez dit, vous avez fait cette mesure d'impact, vous avez pris la mesure de ces chiffres-là. Est-ce que ça veut dire que maintenant, vous allez, dans la manière dont vous dispensez vos enseignements, en tout cas vos coachings, toute votre action, vous allez penser et intégrer cette question de la problématique des femmes? Est-ce que c'est prévu? Deuxième question, presque on a envie de dire, c'est intéressant que vous n'y ayez pas pensé avant, vous ne l'aviez pas vu.
En fait, on a toujours fait en sorte que nos programmes soient inclusifs en quelque sorte et ouverts à la diversité, et pas seulement à la diversité homme-femme, mais aussi à la diversité des parcours, des origines, etc., etc. Par contre, après cette mesure d'impact, on se rend compte que c'est un vrai enjeu et sur lequel, même si on attire plus de femmes, on doit être encore plus vigilant et aller encore plus loin sur ces sujets de formation, d'accompagnement, de création de communauté, de partage de retours d'expérience. C'est l'objectif aussi de Vécu. Donc, ça va vraiment être un enjeu d'approfondissement pour nous dans les prochaines années avec plein d'autres défis aussi.
Et vous, en tant que jeune entrepreneuse, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative? Évidemment, vous allez en faire partie, donc j'imagine que vous en pensez du bien. Mais cette journée de la femme digitale, on parlait des modèles tout à l'heure, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui? Ou pas forcément?
Oui, je pense que c'est vraiment nécessaire de montrer en fait qu'il y a énormément de femmes qui entreprennent ou intraprennent, qui prennent des risques, que c'est possible, que ça marche, que oui, il y a plein de... challenge, difficultés, enjeux, etc. Mais qu'en fait, ça marche, quoi.
Merci beaucoup, Joséphine.
Merci
Boucher,
à vous.
Vous en êtes l'exemple vous-même, puisque vous êtes cofondatrice de Ticket for Change, qui a donc lancé il y a une semaine ses podcasts Vécu.
Le temps de vous rappeler qu'il y a désormais 3 podcasts pour Soft Power. L'un vous permet de vous abonner à l'émission entière, le second à l'invité de 20h, c'était à l'instant, et le troisième au débat politique qui commence dans un instant. Le temps également de vous remercier car vous êtes plus de 133 000 à nous suivre désormais en podcast, en complément de l'audience habituelle hertzienne de Soft Power ou en direct en streaming. Voilà, merci.
Soft Power, le numérique et politique. Le débat. Frédéric Martel.
20h10, le débat numérique et politique. Le débat de ce soir est consacré à Facebook avec, après le scandale Cambridge Analytica et l'audition marathon de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain. Et nous en parlons ce soir avec Romain Pigenel, ancien conseiller du président François Hollande et cofondateur chez Futur.io. Et à vos côtés ce soir, puisqu'il faut expliquer, être un peu pédagogue, Emmanuel Paquet, journaliste à l'Express, qui est resté avec nous. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, il y a quelques semaines, le scandale Cambridge Analytica a été éclaté autour de Facebook, le réseau social aux 2,2 milliards d'utilisateurs. Pour résumer, Cambridge Analytica a récupéré les données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook sous couvert d'un travail de recherche universitaire et académique. Ces données auraient ensuite servi à cibler des utilisateurs au bénéfice de la campagne électorale de Donald Trump, notamment, ou encore de la campagne du Brexit. Et cette semaine, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a été entendu par le Congrès américain à ce sujet, une audience rare que l'on a suivie en direct comme une véritable série TV. Alors Emmanuel Paquette, pour commencer avec vous, est-ce qu'on pourrait revenir sur ces deux événements tout récents ?
Oui, alors il faut savoir que c'est probablement la plus grande crise aujourd'hui qui affecte le réseau social. Aujourd'hui, c'est quand même 2 milliards de personnes qui se connectent sur cette plateforme, 87 millions donc effectivement de profils dont les données ont été aspirées sans le consentement des utilisateurs par Cambridge Analytica. Et sur ces 87 millions, il faut savoir qu'il y a quand même 2,7 millions d'Européens, il y a 1 million à peu près de Britanniques, 211 000 Français, 300 000 Allemands. Donc ça dépasse très largement le cadre américain. Donc là, on a eu une audition devant le Congrès, mais les autorités de régulation européennes viennent de demander également à auditionner Mark Zuckerberg sur les mêmes questions.
Une première réaction peut-être, Romain Piginel ?
Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a enfin le problème qui est mis sur la table. Et on commence à poser politiquement le sujet du poids de ces plateformes. Je dis bien ces plateformes à dessein, parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne uniquement le procès de Facebook. On a vu maintenant, c'est devenu un peu le bouc émissaire facile. Alors avec des campagnes, d'ailleurs, on pourra parler de l'efficacité des lettres Facebook, des gens comme Elon Musk ou d'autres personnes qui disent on va effacer le compte Facebook, on va partir. Donc ça, il y a effectivement qui n'est pas un petit problème, mais c'est le rôle de Facebook. Mais après, il y a finalement le poids qu'on a laissé finalement avoir à ces plateformes. Et elles ont joué leur jeu. Moi, je ne reproche pas d'avoir maximisé leurs profits, avec pendant très longtemps une espèce de légende dorée qu'on nous a racontée, où finalement, il était de bon ton de dire, elle crée de nouvelles façons de communiquer, il y a de nouvelles façons de cibler les électeurs, et c'est très bien. Et à ce titre, ce qui est quand même amusant, c'est que, même si évidemment les situations ne sont pas comparables, quand on regarde la dernière campagne de Barack Obama, en 2012, et quand on reprend les articles de l'époque, qui étaient totalement dithyrambiques sur la qualité de la campagne numérique qu'il avait faite, il racontait aussi, et on l'a appris aujourd'hui avec des anciens de son équipe, alors il faut vérifier évidemment la véracité de tout ça, mais qui ont donné des informations a posteriori, qu'ils avaient aussi fait usage justement d'énormément de données captées via Facebook. Alors, sans rentrer dans le détail, apparemment de manière moins illégale ou moins litigieuse que l'est le leak de Facebook de Cambridge Analytica, mais on voit bien qu'à ce moment-là, ça dérangeait finalement pas grand monde, et on avait toute une légende dorée qui nous était racontée, qui était montrée aussi comme exemple. Moi, je m'en souviens, quand on dirigeait des équipes de campagne en France, on disait, regardez l'usage exceptionnellement intelligent qui a été fait de la data, des data disponibles sur Facebook par Barack Obama. Donc, pendant longtemps, il y a eu, je pense, un discours qui était excessivement angélique. Alors maintenant, on est peut-être dans un discours qui, parfois, notamment sur Facebook, excessivement critique et qui oublie de regarder le contexte plus général. Mais au moins, je trouve que le débat est ouvert. On voit aussi, notamment en France, que ça va de pair avec une meilleure, culture générale numérique d'une nouvelle génération d'élus qui saisit de ces problèmes. Et même s'il reste beaucoup de choses à faire, on peut enfin remettre sur la table d'un débat démocratique informé ces sujets de société qui en sont, évidemment, quand on voit le poids économique et la quantité de données qui sont traitées par ces géants numériques. Facebook en premier lieu, mais pas que Facebook.
Alors le sujet, au fond, ce soir, c'est l'impuissance politique face à Facebook. Au-delà de ces deux questions que nous avons évoquées, que peuvent faire les politiques, les hommes politiques et d'ailleurs aussi les hommes politiques européens face à Facebook? Vous avez évoqué, Emmanuel Paquette, le fait que Mark Zuckerberg a été auditionné aux États-Unis, qu'on pourrait aussi l'auditionner en Europe. On aurait pu imaginer une convocation par Bruxelles, puisque Cambridge Analytica, comme vous l'avez rappelé, a touché 2,7 millions d'utilisateurs en Europe.
Oui, et pour l'instant, c'est vrai que Facebook se protège en disant que le seul statut qu'il aurait reconnu, c'est un statut d'hébergeur, en tout cas en Europe. Donc il y a même eu des questions de certains élus leur disant « Mais est-ce que vous diffusez des matchs de baseball, par exemple? Est-ce que vous êtes un média ?» La réponse de Mark Zuckerberg a été de dire non. Après, on lui a posé la question, mais vous vendez aussi du crédit à la consommation, vous voulez devenir une banque, est-ce que vous êtes une banque en tant que telle? Il a dit non. Donc en fait, le problème, c'est qu'il joue sur un côté de vide juridique qui fait qu'il n'est ni hébergeur, ni éditeur, entre guillemets. Donc les fake news qui ont pu circuler pendant la campagne présidentielle française ou également américaine, ils n'en sont pas responsables a priori, mais a posteriori. C'est-à-dire, si on voit une erreur, si on voit l'apologie du terrorisme sur certaines pages, on le signale. Et par contre, Facebook a dans la loi doit réagir le plus promptement possible pour enlever ces contenus-là. Mais jamais a priori, toujours a posteriori. Donc la question est celle du statut. C'est un serpent de mer qui se repose régulièrement, mais pas seulement à Facebook. C'est une question qui se pose à YouTube également, puisqu'il y a des vidéos d'apologie du terrorisme aussi qui circulent. Ça déborde très largement même tout ce qui touche aux campagnes présidentielles. Ça touche également la vente de drogue, puisqu'une question lui a été posée là-dessus. Aujourd'hui, comme Facebook a lancé Facebook Marketplace, qui permet de vendre sur Facebook tout ce qu'on veut, et ben aujourd'hui on y trouve de la contrebande de cigarettes, on y vend de la vente de médicaments illégaux. Donc aujourd'hui, alors que ce n'est pas un site de commerce, donc ce n'est rien, et en même temps Facebook fait tout.
Romain Pichinel, que peuvent les hommes politiques face à Facebook et plus globalement face à ces questions de régulation des GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon?
Déjà, ils peuvent commencer par se dire qu'ils peuvent faire quelque chose. Et ça, je crois que c'est important parce que, comme je le disais, pendant longtemps, il y a eu tout un ensemble de causes qui étaient d'ailleurs une forme parfois de méconnaissance, une forme aussi de révérence excessive. Parce que c'est vrai qu'on a le souvenir parfois, moi je repense à l'accord Google sur la presse, j'en parle d'autant plus librement que c'était ma majorité qui était au pouvoir à ce moment-là, où on avait l'impression que finalement Google arrivait et traitait d'égal à égal avec des États. Il y a eu ce cas aussi, qui est un peu anecdotique, mais révélateur, de la nomination l'an dernier par le Danemark, par exemple, du premier ambassadeur d'un pays auprès des GAFA. Quelqu'un qui s'appelle Kasper Klinge, j'espère ne pas écorcher l'accent danois.
Et ça, vous n'y êtes pas favorable?
Non, parce que d'abord, là, sans rentrer dans des débats techniques très très très
précis. C'est pas un ambassadeur au numérique, mais dédié à des entreprises.
C'est quelque chose de complètement fou, d'autant plus que quand on lit les interviews de cette personne, alors qu'elle a l'intérêt d'être très cohérente, très transparente, elle a un discours extrêmement étonnant pour prendre en un État, puisqu'elle dit, au fond, aujourd'hui, les GAFA ont des revenus qui sont supérieurs au PIB d'un pays comme la France. Ils ont une emprise sur nos vies qui est supérieure à celle de bien des pays, des organisations internationales, sans compter justement d'un pays petit comme le Danemark. Donc, il faut admettre que nous sommes de cette manière inférieure. Il faut négocier avec eux. Et c'est vrai qu'il y a eu de nombreuses interviews de cette personne qui sont intéressantes parce qu'elle va les mettre pieds dans le plat. Elle pose ce sujet-là. Moi, je crois, en refaisant simplement, je dirais, un peu de philosophie politique, voire de bon sens, que c'est une absurdité, une voie dangereuse, parce qu'il y a une question de souveraineté. Les hommes politiques, les services publics, etc., on sait à qui ils doivent justement leur autorité, on sait au nom de qui ils peuvent exercer la loi, et on voit bien inversement que ces géants numériques, qui d'un côté prétendent effectivement ne pas faire de politique, qui en même temps portent beaucoup de valeurs normatives, parce qu'on voit que ce soit Facebook, sur Twitter, ils passent leur temps finalement à sécréter l'idéologie, à sécréter des normes. C'est pas pour rien que Google avait comme slogan « Don't be evil », donc on voit que c'est des agents normatifs, éthiques, et qui pour autant ne tirent pas cette légitimité d'aucun, je dirais, aucun vote populaire, aucun type de contrôle. Donc je pense qu'il faut d'abord combattre cette idée effectivement et revérifier tous les secteurs de la vie publique, et notamment le débat public, les échanges d'idées, on a parlé des fake news, où de fait, ces géants occupent si ce n'est des missions de service public, et je pense que parfois la question se pose, est-ce qu'aujourd'hui Facebook, d'un certain point de vue, n'est pas une forme de fait de service public, de la mise en relation, de l'amitié? Ben, si de fait on constate qu'ils ont ce type de pouvoir et de puissance, comme le disait un certain Peter Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Un Spider-Man.
Voilà, absolument, le proverbe de Spider-Man, il faut poser ce sujet-là sur la table.
Le premier Spider-Man, c'est il y a très longtemps. Voilà, depuis, très longtemps. Il n'a plus ses grands pouvoirs, ni ses grandes responsabilités.
Avant les deux reboots, voilà, et se dire fondamentalement à partir de quel moment un type de pouvoir excessif n'implique pas de poser la question de la souveraineté, et éventuellement, pourquoi pas, d'appliquer des lois antitrust ou de casser ce genre de service.
Pour terminer sur la partie Cambridge Analytica, il y a ce week-end dans le Financial Times un long entretien, d'abord un portrait de Mark Zuckerberg assez critique, où on dit finalement que ce fondateur de Facebook n'a jamais appris à séparer son idéalisme de son intérêt personnel et l'intérêt de sa société. Et d'autre part, il y a une réponse de la part d'un certain nombre de personnes qui ont travaillé à Cambridge University autour des groupes qui ont proposé ces recherches, et ils répondent au fond, Facebook savait très bien que ces données permettaient du marketing online depuis des années, puisque c'était la manière qu'ils ont de gagner leur argent. Et donc, d'une certaine manière, tout le monde crie aujourd'hui au scandale, alors même que c'est le cœur même du modèle économique de Facebook, Emmanuel Paquette.
Oui, exact. C'était d'ailleurs une des réponses souvent données par Zuckerberg, c'est « on ne vend pas les données de nos utilisateurs ». Là-dessus, il avait raison, mais c'est bien plus pervers que ça, c'est-à-dire qu'il les donne. Et il les donne à des entreprises qui, une fois les avoir analysées, font de la publicité sur Facebook.
Mais
et elles
restent, pour à leur décharge, elles restent anonymisées, ces données. Donc après, on vous recible en fonction d'un certain nombre d'éléments, mais on ne va pas cibler vous, Emmanuel Paquette, ou vous, Romain Pichinel, nominativement. On cible des profils.
On cible des profils, effectivement. Mais en gros, c'est plus.
Et en
Facebook
quoi ça pose
donne...
le problème, alors, à ce moment-là, d'utilisation des données privées pour jouer un peu l'avocat du diable?
Alors, dans le cas de Cambridge Analytica, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'opt-in. Enfin, c'est-à-dire que les utilisateurs n'étaient même pas au courant que leurs données étaient aspirées par cette entreprise tierce.
Parce que vous croyez qu'on est au courant pour toutes les données qu'on aspire.
Alors, généralement, justement, on donne son accord ou pas, d'ailleurs, lorsqu'on va sur Facebook.
Mais sauf que personne ne lit les pages
écrites en tout petits caractères avec les petits astérix en bas de page. Effectivement, on ne se rend pas compte qu'on donne beaucoup d'autorisations à Facebook sans le vouloir.
Mais Romain Pigenel, sur cette question, avant de passer à autre chose, le fait que les annonceurs ne ciblent pas des individus mais des cibles marketing, par exemple les auditeurs de France Culture qui ont moins de 35 ans, en quoi ça pose des problèmes de vie privée?
Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Manuel Paquette et qui reprend d'ailleurs la saillie qui était assez drôle et bienvenue d'un des représentants des élus américains qui a interrogé Zuckerberg. C'est au fond le problème de toutes ces contrats qu'on passe tout le temps, qu'on va sur les plateformes, c'est vraiment le paradigme des petits caractères. C'est-à-dire que c'est avant la caricature, justement, quand on signe une police d'assurance à laquelle on ne comprend rien, etc. Et ça, c'est quand même le paradigme de base de tous ces services, c'est-à-dire qu'on passe son temps à s'engager, à signer des polices d'utilisation qu'on ne comprend rien, qu'on ne lit pas, et même quand, moi j'avoue, quand j'ai besoin d'un service, on me fait effectivement scroller toutes les pages, et je regarde très rapidement, mais parce qu'on n'a pas le temps et on ne comprend pas. Et ça, c'est un vrai problème.
Et parce qu'on veut le service, et si on ne signe pas, on ne l'a pas.
Exactement, et ça pointe un sujet fondamental quand vous posiez qu'est-ce que peuvent faire les hommes politiques contre ces plateformes. D'abord, je ne sais pas s'il faut être contre, il faut en tout cas les réguler. Ça pose un sujet fondamental qui est, au fond, pourquoi est-ce que pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction populaire contre ce qui se passe. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a effectivement régulièrement des syndromes d'élite Facebook. Alors, on l'a vu à chaque fois quand il y a eu des réseaux alternatifs qui ont été proposés, les mastodons, les diasporas. Logiquement, si on était dans un choix éclairé et si tout le monde était sur ces arguments apparemment de logique pure, tout le monde aurait dû quitter Facebook. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Alors, il y a différentes raisons, mais je pense que la raison, la première, c'est que...
C'est ce qu'a dit d'ailleurs Zuckerberg. On lui a posé la question, il a dit non, ils ne sont pas partis.
Au fond, je pense que beaucoup de gens ne savent pas réellement ce qu'ils font sur Facebook. On est sur Facebook, c'est une logique circulaire, parce que tout le monde y est, parce qu'il faut y être, premièrement. Deuxièmement, parce que Facebook a sécrété son propre besoin. Facebook a mis dans nos têtes, alors c'est ni un bien ni un mal, qu'il était important tous les jours de voir les photos de ses amis, de liker, etc.
Et puis si on n'est pas sur Facebook, on sera sur Snapchat ou sur Instagram, qui d'ailleurs aussi appartient à Facebook, ou sur WhatsApp, qui appartient aussi à Facebook, et donc au fond, il n'y a pas de solution.
Alors, il n'y a pas tant de plateformes que ça, mais surtout ce qui est fondamental, c'est que ce qui n'est jamais mis de manière apparente, c'est quelle est la nature du deal. Et de ce point de vue-là, il y a une phrase qu'on répète tous, mais qui à mon avis a fait beaucoup de mal, c'est quand on dit si c'est gratuit, c'est vous le produit. Sauf que c'est pas gratuit. Et il y a une chose qui n'est jamais transparente, c'est quel est le deal. Un deal, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je donne. Et ça, je vous mets au défi, n'importe qui, de dire finalement quel besoin réel cela remplit pour nous, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on a en échange, comment sommes-nous monétisés. Et c'est pour ça qu'à mon avis, le débat ne prend pas et n'a pas pris toute son ampleur par rapport aux utilisateurs, et qu'on voit que, à ma connaissance, il n'y a pas de signe de désengagement massif de ces réseaux, parce qu'au fond, la majorité des utilisateurs ne comprennent pas réellement ce qu'ils donnent et ce qu'ils ont en échange.
Peut-être pour terminer, Emmanuel Paquette et Romain Pigenel, ce débat autour de l'impuissance politique face à Facebook, un mot sur le RGPD, il y a d'autres mots en anglais, qui va s'appliquer bientôt. Emmanuel Paquette, si vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit, peut-être Romain Pigenel, en conclusion, est-ce que ça vous paraît une première tentative pour éventuellement essayer de fournir des moyens pour un peu défendre les consommateurs?
Alors le RGPD, c'est le Règlement Général de Protection des Données. Donc ça a été voté en Europe et ça sera mis en application à partir du 25 mai prochain. Donc l'idée, c'est de demander à des sociétés, à des entreprises, de protéger les données. Alors il y a plusieurs mesures qui leur sont demandées, notamment de nommer un Data Protection Officer, donc un responsable des données dans chaque société. Donc en cas de problème, la puissance publique sait vers qui se retourner. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en cas de fuite massive de données ou d'exploitation qui n'est pas autorisée, il peut y avoir des amendes qui peuvent monter jusqu'à 20 millions d'euros, je crois, ou 3% du chiffre d'affaires. Donc c'est beaucoup plus que par le passé. Et on demande également que tout soit créé avec ce qu'on appelle le Security by Design, c'est-à-dire que par essence même, quand on crée un service ou quand on crée un site web, il soit sécurisé de bout en bout et que les données soient protégées de la manière la plus efficace possible.
Romain Pigenel, d'un mot pour conclure, est-ce que c'est une première étape positive?
Je dirais que ça a au moins un immense mérite, c'est de faire rappeler à l'Europe elle-même que si elle n'a pas la puissance technologique des autres continents, elle a au moins une puissance réglementaire et normative très forte, et on n'a jamais autant entendu parler de l'Europe dans tous les médias tech, notamment outre-Atlantique, depuis qu'il y a eu l'annonce du RGPD et ses conséquences possibles pour Facebook.
Donc oui aux GAFA, mais oui à leur régulation également.
Privacy by design, pardon.
Privacy by design. Merci infiniment Romain Pigenel, ancien conseiller du président François Hollande, cofondateur chez Futur.io. Merci Emmanuel Paquette. On en reste là pour ce soir. Merci infiniment donc à vous deux. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. Et dimanche prochain, nous parlerons de ce qu'Internet fait à l'amour. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.